Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Europa Voice numéro 167, et comme à l'accoutumée, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
On l'a préparé, hein, cette Europa Voice, on savait que ça pouvait arriver rapidement. Le gouvernement Bayrou a été renversé, ce sera le sujet principal de cette Europa Voice, première et deuxième partie, donc sur ce qui vient de se passer. Ça s'est passé juste au moment où on enregistre, ça s'est passé il y a juste quelques heures en France, une motion de censure qui a été donc acceptée. Le gouvernement Bayrou lui-même n'est plus Premier ministre.
Effectivement, Christophe, sur les 573 députés qui ont été amenés à voter, une très large majorité, puisqu'on parle de 364, ont voté contre la confiance du gouvernement. Parce que ce qui se passait, c'est que François Bayrou demandait à l'Assemblée la confiance pour pouvoir mettre en œuvre son programme d'économie budgétaire. Hein, c'est plus de 40 milliards d'économies. Il avait besoin de cette confiance-là, et de loin, de très loin, mais d'ailleurs comme on en avait parlé dans notre précédent épisode d'Europa Voice, il n'a pas obtenu cette confiance de l'Assemblée nationale.
Alors ce qui est intéressant, et si on peut en parler juste en détaillant un petit peu, c'est vrai qu'il y avait énormément d'économies dans ce budget. C'était un budget, on va dire, presque de rigueur, hein, en tout cas, remboursement de la dette. Enfin, il y avait énormément d'économies demandées aux Français, peut-être deux jours fériés à être travaillés à la place de rester chez soi et de faire le pont, enfin, etc. Énormément. Par contre, il y a aussi du côté des parlementaires, que je pense beaucoup au Rassemblement national, qui n'arrête pas de parler de la dette beaucoup trop, mais ils n'ont pas soutenu le gouvernement, en tout cas le gouvernement de Bayrou, dans un exercice pour essayer de résoudre ce problème de la dette.
Alors, à la décharge, j'allais dire, de François Bayrou, il y a deux éléments qu'il faut discuter. Le premier, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu un budget à l'équilibre en France depuis les années 70, depuis 74, je crois.
Ouais, 76, je crois. C'était la première fois que Raymond Barre a passé, la première fois qu'il y a eu la dette, un budget déficitaire.
Voilà.
Raymond
Barre. Donc ça fait
49 ans.
Ça fait 50 ans. Ça fait quasiment 50 ans,
voilà,
qu'il n'y a pas eu de budget à l'équilibre. Donc, François Bayrou n'est pas le premier à faire ce constat, il n'est pas le premier à vouloir y remédier. La deuxième chose à la décharge de François Bayrou, c'est que cette thématique de l'équilibre budgétaire, cette thématique du déficit de la dette, pour le coup, ça a été un sujet sur lequel il s'est engagé depuis ses premiers pas en politique. Ça
a
ça a été un de ses chevaux de bataille. Et donc, je pense que de manière, encore une fois, foncièrement honnête, François Bayrou voulait bien faire les choses en présentant ses économies pour l'année suivante. Le problème, Christophe, c'est qu'il le fait dans peut-être le plus mauvais contexte politique qu'il soit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il est à la fois tiraillé, non pas par une opposition, mais par plusieurs oppositions, à l'extrême gauche, à la gauche et à l'extrême droite. Et puis surtout, il y a un simulacre, j'allais dire, de groupe homogène au centre. C'est-à-dire qu'il y a une partie des Républicains qui sont objectivement des alliés, une autre partie qui sont objectivement des ennemis. Et d'ailleurs, ça s'est retrouvé, c'est ça qui est intéressant, dans le vote, parce que les Républicains ont été, à la demande d'ailleurs de Laurent Wauquiez, le seul groupe politique sans consigne de vote partagé entre voter ou pas cette confiance au gouvernement Bayrou. Donc en fait, François Bayrou, encore une fois, il est sur un constat qui n'est pas le sien, qui est un constat français depuis 50 ans. Il est sur un positionnement, sur une thématique qui est la sienne, sur laquelle il a des choses à dire, sur laquelle il a dit des choses depuis 30 ans qu'il est dans le paysage politique. Mais par contre, il n'a pas les bons instruments, les bons ustensiles de cuisine pour le faire. Et c'est ce qui explique non-confiance, mais ce tollé. Parce que là, on est dans des chiffres qui, même nous, je crois, Europa Voice, vont au-delà de ce qu'on attendait en termes de vote de non-confiance au gouvernement Bayrou.
Je pense que ça nous a surpris. Enfin, en tout cas, moi, au réveil ce matin, ça m'a surpris de voir le chiffre, à quel point il était élevé. Je fais appel simplement aux communicants que vous êtes. Est-ce qu'il y a eu un défaut de forme plutôt que de fond? Okay, il y a un défaut de fond qui n'a pas plu aux députés donc de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut critiquer la forme aussi de ce qui s'est passé sur le gouvernement Bayrou depuis le début, mais sur ce dernier mois et demi?
Il y a définitivement, Christophe, des maladresses au niveau de la forme. Hein. On en a parlé, hein, le bureau de François Bayrou, l'épisode de son bureau cet été. Ce vote de confiance qui est demandé aussi dans un contexte politique où dans maintenant moins d'un jour, cette journée de paralysie, d'arrêt total, de manifestation à l'échelle nationale. Donc le timing lui-même est très surprenant. Donc je crois que c'est effectivement plus un défaut de forme qu'un défaut de fond. Mais j'aimerais quand même revenir sur le fond et sur ces économies budgétaires parce qu'il y a aussi des choses, si vous voulez, qu'on peut faire passer quand le climat politique est plutôt favorable et qu'il est difficile de faire passer quand le climat ne l'est pas. Je vais prendre deux exemples. D'abord, l'année blanche, l'année fiscale blanche l'année prochaine et les coupes budgétaires dans les domaines de l'éducation et de la santé et de la fonction publique. C'est un sujet qui est éminemment politique. Il a raison, hein, François Bayrou, de vouloir mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, mais dans le climat actuel où il a une opposition forte, notamment de la part de la gauche et de LFI, du Nouveau Front Populaire, toucher à la fonction publique, toucher à l'éducation, à la santé, il sait qu'il va y avoir un retour de bâton. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, sur les jours fériés. Alors, effectivement, ça fait des économies, mais il y a un précédent. Il y a déjà un précédent sous le gouvernement Raffarin.
Avec la Pentecôte.
Avec la Pentecôte. On a vu que ça s'est pas spécialement, bien, ça n'a pas été spécialement bien accepté, ça n'est pas spécialement respecté. Et finalement, on est venu d'une proposition qui était, j'allais dire, un peu une obligation à vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez le travailler ou pas, mais l'argent de cette journée de travail va aller. Donc, pareil, sur le fond, il a peut-être raison, mais il sait très bien que dans le climat actuel, supprimer ces deux jours fériés, et en plus, il met la main un peu dans tous les pots parce qu'il supprime à la fois un jour férié religieux, je crois que c'est le lundi de Pâques, et il supprime à la fois une journée extrêmement symbolique qui est le 8 mai, donc la victoire des Alliés. Donc il sait très bien, et là je parlais de l'extrême gauche, mais il sait très bien que du côté de l'extrême droite, ils vont encore pouvoir déployer tout ce narratif de non-fierté française, etc.
Ouais, du patriotisme.
Du patriotisme. Et donc, je crois que sur le fond de ces économies, où il a foncièrement raison, il y a des maladresses. Il y avait peut-être une autre manière de les envelopper pour faire passer un message. Ça ne veut pas dire qu'il aurait eu cette confiance, mais de le faire passer d'une manière un peu plus, subtile. Et puis, le dernier élément...
Un peu plus crème, on peut dire ça.
Un peu, voilà, que ça passe un peu plus crème. Et puis, le dernier élément, les groupes parlementaires, certains des groupes parlementaires n'ont même pas daigné venir à Matignon pour être consultés. Ont déjà dit qu'ils voteraient non. Donc, de toute façon, c'était perdu d'avance. Mmh. Alors, est-ce qu'ils pouvaient faire quelque chose une fois qu'il a eu la fin de non-recevoir d'une consultation? Ça aurait été difficile de faire marche arrière. Mais je veux dire, si déjà avant le vote, vos partenaires refusent de venir discuter avec vous, ben, vous savez que c'est très mal... Ça démarre très mal, en tout cas, pour le vote de confiance.
Absolument. Est-ce qu'il aurait pu imposer un 49-3 pour poser son... Est-ce que c'était l'autre possibilité d'y aller au forceps?
Non. Clairement, il n'y avait pas la place pour un 49-3. Et puis d'ailleurs,
la suite, il y aurait eu une motion de censure, voilà, même résultat.
Non, c'est tout simplement impossible. Et puis, encore une fois, dans la démarche, si vous n'êtes pas capable d'obtenir... Le 49-3, il marche, si vous voulez, et on ne va pas rentrer dans le droit constitutionnel, dans l'esprit de la 5e, etc. Mais le 49-3, il marche quand on est dans une situation de blocage sur des textes très précis, sur des points, mais sur lesquels on va pouvoir passer outre. Quelques jours après, sur un projet, alors que ce soit un projet, là je parle d'un projet, je voulais parler d'un projet de la finance, mais même sur un vote budgétaire, sur des économies aussi importantes que ça, de toute façon, vous ne pouvez pas, dans l'esprit de la 5e République, on ne peut pas passer par un 49-3, c'est impossible. D'ailleurs, il a raison, hein, François Bayrou, c'est tellement important les économies qu'il voulait mettre en place, son projet, il est tellement important qu'il devait de toute façon avoir. Les députés avec lui, parce que ça ne s'arrête pas seulement à ce projet de loi-là, puisqu'après chaque projet, il va être étayé, discuté, etc. Donc, il doit être sûr aussi qu'une fois que l'esprit de la lettre passe en termes de ces économies autour du budget, de cette réduction de la dette et du déficit, il doit être sûr que, point par point, il n'y aura pas de blocage. Alors, si déjà là, il sait que l'esprit lui-même ne passe pas, c'est impossible d'aller plus loin. Donc, pour répondre à la question, non, 49-3 n'était pas envisageable et n'est pas envisageable pour cette situation-là.
Est-ce qu'on peut parler également il y a eu des annonces au point de vue militaire, au point de vue de la dépense militaire, de la préparation des hôpitaux, qui ont été faites les dernières semaines. Est-ce que ça aussi, c'est pas quelque chose qui a un peu entaché le budget proposé par Bayrou? Parce que d'un seul coup, on trouve des milliards qu'on peut trouver. Et des milliards qu'on peut pas trouver ailleurs. Et là, on trouve des milliards qu'on peut trouver. Est-ce que ça, dans l'opinion publique, ça a pas aussi marqué les esprits?
Dans l'opinion publique, puisque vous faites référence, en fait, Je pense que vous faites référence à deux choses. Vous faites référence à l'aide pour l'Ukraine, mais aussi à la mobilisation des hôpitaux.
Mais tout à fait. Oui.
En cas de guerre sur le continent européen et la capacité de la France à pouvoir accueillir des blessés, etc. Je crois que c'est deux choses qui sont un peu différentes. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ça montre à la fois, finalement, là, pour le coup, l'esprit de la Ve République. C'est-à-dire que le président de la République, il est sur les affaires régaliennes, militaires, sensibles. Donc notamment ces questions d'enjeux militaires à l'échelle du continent, alors que François Bayrou, lui, est sur la mise en place de la politique intérieure et la gestion du quotidien. Donc je ne crois pas tellement, pour le coup, que ça, ces annonces d'Emmanuel Macron ont eu un impact sur le vote des parlementaires. Je crois que surtout que c'est pour Emmanuel Macron une stratégie politique de totalement s'effacer justement de cette motion de non-confiance ou cette non-confiance accordée à François Bayrou et puis lui-même de rester dans son pré-carré. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, on va peut-être en parler, que après le 7e ou 8e, j'ai même du mal moi-même, Christophe, à compter, de Premier ministre, la question de la destitution du président lui-même se pose. Donc Emmanuel Macron, il doit rester quand même très loin de ça. Mais ça, je veux dire... Avec de plus en plus d'acuité, on peut se poser maintenant la question, bon, on a essayé un 7e, un 8e Premier ministre, est-ce que finalement, c'est pas un revers et c'est pas une volonté de dire au revoir, non pas au Premier ministre, mais au président?
Ouais, tout à fait. Alors, on va se projeter sur l'après, dans la deuxième partie d'Europa Voice, on vous retrouve tout de suite après ça.
Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
Deuxième partie d'Europa Voice, toujours avec Nathanaël Bloch. Alors, après le vote de non-confiance au gouvernement Bayrou et la dissolution probable donc de l'Assemblée qui pourrait suivre, et en tout cas le gouvernement qui n'existe plus, le gouvernement et Bayrou qui n'est plus Premier ministre, on fait quoi, Nathanaël ? Il se passe quoi ? C'est quoi la prochaine étape ? Dans la première partie d'Europa Voice, vous avez parlé du fait que de plus en plus on parle de la destitution possible ou demandée, en tout cas par les extrêmes, extrême gauche et extrême droite du Parlement. Mais est-ce que c'est réellement possible ?
Alors.
Parce que le RN, je pense pas que le RN soit totalement en adéquation avec cette idée, en pensant que c'est presque beaucoup trop compliqué, surtout qu'il reste que, entre guillemets, 18 mois de mandat.
Alors, ce vote contre la confiance du gouvernement, parce que maintenant on sait que les parlementaires ont voté, pour Emmanuel Macron, il y a deux options. Il y a changer de gouvernement, enfin nommer un nouveau Premier ministre, qui lui-même va nommer un nouveau gouvernement. Ça, c'est une option parmi d'autres. Mais ça pose aussi la question de la légitimité du prochain gouvernement. Et les parlementaires ne manqueront pas de rappeler à Emmanuel Macron qu'ils n'ont pas appelé simplement pour changer la marionnette à la tête de la politique intérieure, mais pour un changement plus radical. Mais c'est une option qui se pose. Emmanuel Macron pourrait laisser l'Assemblée nationale comme elle est et puis nommer un nouveau Premier ministre et de faire un nouveau gouvernement. Il pourrait même, ça n'arrivera pas, hein, Christophe, mais il pourrait même nommer l'exact même gouvernement. Ça, c'est la première option qui se présente à Emmanuel Macron. La deuxième option, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue d'élections législatives anticipée. Cette option, Christophe, évidemment, elle est beaucoup plus risquée parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des résultats encore plus défavorables à Emmanuel Macron. Mais c'est certainement, dans ces deux options qu'a le président de la République, l'option la plus réaliste. Parce que, encore une fois, le vote de la non-confiance est tellement importante que je ne pense pas que le président de la République puisse simplement se contenter de nommer un nouveau Premier ministre. Donc c'est la dissolution de l'Assemblée nationale et l'élection, la tenue d'élections législatives anticipées, sachant que à partir de maintenant s'ouvre aussi la période électorale des élections municipales de mars prochain. Donc on va être dans un calendrier qui va être assez compliqué. Si élections législatives anticipées il doit y avoir, elles doivent se tenir assez rapidement pour qu'elle ne pollue pas non plus la période électorale et la campagne électorale des prochaines municipales.
C'est compliqué tout ça, hein, la politique. Hein.
C'est très compliqué. Et puis la démission d'Emmanuel Macron se pose aussi avec la même configuration, j'allais dire. C'est-à-dire que je crois que c'est Jean-François Copé, qui est lui toujours dans le paysage politique français, qui a dit il doit y avoir démission du président de la République, mais pour assurer la stabilité et le scrutin des municipales, elle devrait avoir lieu en mars prochain. Donc il y a beaucoup de, à la fois de calendriers et de scénarios qui s'entrechoquent. Mais si vous voulez, je pense que la question des élections législatives anticipées est certainement celle qui est la plus probable. Je vois mal le gouvernement nommer un autre Premier ministre, en tout cas un autre Premier ministre issu de la majorité. Est-ce que ce sera un Premier ministre de gauche cette fois? Enfin, c'est sur la table, mais ça me paraît assez compliqué comme option.
Oui, tout à fait. Ça, ce qui est sûr, c'est que c'est... Alors, je ne vais pas dire que c'était, ça s'est presque jamais passé, mais globalement, on est quand même dans de nouveaux, dans une nouvelle ère hein, de la politique en France. On pensait vraiment que avec l'arrivée de Macron, il y a un coup de balai qui allait se passer. Bah, le coup de balai, il est plutôt sérieux quand même, parce que quand on regarde le paysage politique qui était il y a 10 ans et le paysage politique aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, il y a 10 ans, c'était juste presque pas possible en fait.
Ah non, c'est un petit peu aussi ce qu'on reproche à Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il a effectivement détruit la situation bipartisane qu'on connaissait en France, un groupe socialiste à l'Assemblée nationale, un groupe de droite, du centre-droit, et puis après des variables d'ajustement des deux côtés, avec des partis extrémistes qui étaient quand même assez contenus. Et puis là, on arrive déjà dans une configuration tripartite, avec aucun bloc qui ne semble avoir une majorité absolue, et puis surtout, un bloc central qui, lui, a de moins en moins de place et de plus en plus en train de s'effriter. Et parce qu'on fonctionne comme des vases communicants, si le bloc central est en train de s'effriter, de se réduire, c'est forcément les blocs extrêmes qui profitent de cela. Donc le pari d'Emmanuel Macron est à moitié réussi, j'allais dire. Effectivement, le jeu politique, la scène politique française a été complètement chamboulée. L'a-t-elle été à bon escient et pour le bien des Français avec l'émergence des deux partis extrêmes, ça reste encore à prouver et à discuter certainement.
La démission de Macron, vous y croyez ou pas?
C'est compliqué. Encore une fois, la démission d'Emmanuel Macron, pour le coup, elle ne pourrait pour moi non plus pas s'effectuer avant les municipales de toute façon. On entrerait dans un calendrier beaucoup trop compliqué. Et puis je crois qu'Emmanuel Macron pense toujours avoir un score relativement honnête aux municipales. Ma conviction, c'est qu'il espère nationaliser le scrutin des municipales. Pour la simple et bonne raison que il est très probable que certaines mairies écologistes ou LFI tombent dans le bloc central, puisqu'après un premier essai de...
Là, vous pensez à Bordeaux-Lyon, par exemple.
Je pense à Bordeaux-Lyon, mais je pense aussi un peu au même effet qu'il y avait eu, si vous en rappelez, pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, avec les premières mairies Rassemblement National. C'est-à-dire que, en fait, on s'était rendu compte que... une fois que le Rassemblement national, à l'époque qui était encore le Front national, avait eu accès aux mairies, c'était à Orange.
Orange, tout à fait. Première mairie Orange.
Et bien en fait, la gestion, c'était pas forcément pour leur bénéfice, et qu'après, aux élections municipales d'après, ils avaient perdu les quelques mairies qu'ils avaient obtenues. Et là, on est un peu dans la même configuration avec les partis d'extrême gauche. On a évidemment un nombre incroyable de villes françaises moyennes et grandes qui sont tombées entre les mains du nouveau Front populaire, dernière municipale, mais qui, dans ces 5 dernières années, ont été contestées parce que c'est pas la même chose de prétendre vouloir gérer une municipalité et la gérer effectivement. Et donc, le Bloc central, d'une certaine façon, mais la droite aussi, hein, espère récupérer un certain nombre de ces mairies. Vous parlez de Lyon, et puis ça fait lien avec le sport, hein, puisqu'on sait que Jean-Michel Aulas,
ancien président de l'OL,
se présente et est plutôt pour l'instant crédité de bonnes intentions de vote. Donc voilà, est-ce qu'Emmanuel Macron espère nationaliser le scrutin, récupérer un certain nombre de mairies, et puis dire, vous voyez, finalement, on ne fait pas si mal, le Modem, En Marche, le Bloc central? Je pense qu'il est un peu sur ce jeu-là. Donc de toute façon, pour moi, encore une fois, il n'y a pas de boule de cristal à Europa Voice, mais pas avant la fin des municipales. Et pour Macron, espérer un résultat honnête pour pouvoir finir, je ne sais pas si c'est sereinement, mais finir l'année de mandat qui, à ce moment-là, lui restera jusque avril-mai 2027.
Affaire à suivre, et ça nous laisse de belles saisons d'Europa Voice devant nous, hein, en tout cas. Il y a de quoi parler, il y a déjà pas mal de pain sur la planche.
Hein. Eh oui, ça ne fait que commencer.
Exactement, merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.